Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, la F1 a vibré au son des mariachis ce week-end pour le Grand Prix de la ville de Mexico et pour la 16e fois cette saison, c'est Max Verstappen qui a donné le ton, nouveau record pour le triple champion du monde sur une saison et un total de 51 victoires qui portent le néerlandais à la hauteur d'un certain Alain Prost, une réussite qui contraste avec les déboires de son coéquipier Sergio Pérez, on en parlera, qui contraste aussi avec une sorte de plafond de verre auquel est confrontée la Scuderia Ferrari. 11e pole sans victoire pour Charles Leclerc, qui partageait même la première ligne avec son coéquipier Carlos Sainz. Les deux Ferrari qui dansaient en qualif samedi, incapables de peser sur la course dimanche pour terminer 3e et 4e. On essaiera de comprendre pourquoi. On se mettra aussi un petit peu dans l'ambiance de la 3e étape de ce triple header au Brésil. Il va falloir passer sombrero, je sais pas, une tenue un petit peu plus légère du côté du Brésil, Stéphane.
Oui, j'ai entendu d'ailleurs que je préparais soi-disant une chorégraphie. Alors j'ai toujours mes Santiago Texan, je les ai gardés pour le Grand Prix du Mexique.
Tu fais du bruit dans les couloirs avec tes
samba après en fin de semaine.
C'est
voilà.
Ça. Mais très musical.
Format avec course sprint au Brésil, qu'est-ce que ça peut nous donner? Est-ce que ça peut mixer encore un peu la hiérarchie? On regardera ça de près. Et avec quelques solutions aussi exotiques qu'on nous propose pour relancer le suspense, je suis un peu dubitatif.
Eh ben, on va en parler. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On tenait à débuter les fous du volant aujourd'hui en faisant mention des incidents qui ont eu lieu durant le Grand Prix de la ville du Mexique. Après l'accrochage entre Sergio Pérez et Charles Leclerc au premier virage, un spectateur manifestement fan de Checo s'en est pris à un ou des supporters de Ferrari, occasionnant une bagarre assez spectaculaire. Et puis il y a eu aussi les sifflets pendant la cérémonie du podium destinée à Charles Leclerc. Stéphane, la question est simple, est-ce qu'il y aura des conséquences et est-ce qu'il doit y avoir des conséquences pour les organisateurs du Grand Prix du Mexique? Sur le même modèle un petit peu que de ce qui se passe dans les stades de foot. Quand il y a un problème dans un stade de foot, c'est le club qui reçoit qui est incriminé et qui parfois paye les pots cassés.
Oui, ça passerait, comme moi je le pense, par un Grand Prix de suspension avec sursis, période probatoire pour le Grand Prix du Mexique, parce que ça ne doit pas se reproduire. Alors effectivement, on a vu plusieurs énergumènes, dont un frappé violemment, très violemment, deux supporters de Ferrari. Alors, on ne sait pas ce qu'il y avait eu comme discussion avant, mais de toute façon, ça ne justifie en rien d'en arriver à une telle violence. Ça, c'est clair. On n'a pas l'habitude de voir ça dans des stades automobiles. Il ne faut pas que ça se reproduise. On a eu par le passé quelques exemples. L'année dernière, à Spielberg, il y avait eu des manifestations assez graves aussi dans les tribunes. Ça ne s'est pas reproduit cette année parce qu'il y avait eu un gros warning envoyé par la FIA. Il y avait aussi un supporter entre guillemets qui avait été volontaire pour encadrer au niveau de la sécurité le Grand Prix des Pays-Bas l'année dernière et qui avait jeté une canette sur la piste, ça aussi c'était éminemment stupide, il avait été exclu du Grand Prix et banni de cette course-là. Et là, en fait, ce personnage qui a été violent a été identifié tout de suite. Il a été sorti sur le champ, en fait, et interdit de tout Grand Prix à vie par la FIA. C'est la seule réponse possible, mais ça ne doit pas se reproduire et ça ne doit pas être, je dirais, une exception où quelqu'un peut se sentir justicier oui. lui-même, hein, clairement. Et il faut envoyer un message très très fort à tous les publics du monde, de toute façon. J'en reviens aussi aux insultes racistes qu'avait essuyé Lewis Hamilton en essais hivernaux à Montmélo de début 2008, eh bien, le président de la FIA d'alors avait dit « Si c'est comme ça, on supprime le Grand Prix, point. » Et il y en a d'autres qui frappent à la porte pour accueillir des Grands Prix, organiser quelque chose dans une bonne ambiance, et en général, c'était une bonne ambiance, mais on a eu aussi des sifflets, des huées, pendant les propos de Charles Leclerc à l'arrivée de la course. Et ça, c'est pareil, ça dénote une dégradation de l'état d'esprit dans le public, ou alors peut-être un certain public. Il y avait un acompte aussi à Austin.
Oui, j'allais en parler de ça.
Qui est à 300 km de la frontière du Mexique, mais ça ne justifie en rien de telles manifestations non plus. Et on est un peu dans une dérive à laquelle il faut mettre fin très rapidement.
Je ne mets quand même pas sur le même plan ce qui s'était passé effectivement il y a un ou deux ans à Spielberg, où là c'était carrément un groupe de personnes. Là, il y a, on va dire les mots, c'est un abruti qui s'en est pris.
Oui, c'était peut-être 2001. Oui,
qui s'en est pris à des gens qui avaient un t-shirt de la Scuderia Ferrari. C'est pas pour dire que c'est pas grave, mais c'est pas la même chose. Voilà, tout organisateur s'expose à avoir dans les travées de son événement un abruti qui pète un plomb, éventuellement avec un petit peu d'alcool sur tout ça. Donc je mets pas tout à fait au même plan ça. Les sifflets, ça me gêne davantage parce que il y a une question. En fait, il y a une question un petit peu d'éducation du public. On le voit bien par exemple en rugby. La Coupe du Monde vient de se terminer. On a un certain sentiment d'injustice par rapport à l'Afrique du Sud. N'empêche que j'ai vu aucun mauvais geste dans le public. Ça s'est toujours très très bien passé et ça part d'où? Voilà où je veux en venir. Ça part d'où? Ça part qu'à la fin des matchs, les joueurs, ils se font la haie d'honneur. Alors oui, on se colle des baffes de temps en temps. Oui, c'est rugueux. Oui, c'est physique. Mais n'empêche qu'à la fin, le message, c'est on fait un sport et ça s'arrête là. J'ai eu le privilège de commenter le tournoi de qualification olympique en escalade. Alors tu vas me dire, là, on fait un grand écart. Eh bien, c'est un jeune Britannique qui s'est qualifié, qui a pris la place qualificative aux dépens du champion olympique en titre. Et tu aurais vu cette accolade magnifique de l'entraîneur de l'équipe d'Espagne sur ce jeune Britannique. C'était magnifique. Et ça, c'est le sport. Donc, il va falloir aussi éduquer les publics. On fait la course. On peut avoir un favori, on peut être mexicain et supporter Checo Pérez, comme on peut supporter n'importe quel pilote, mais à un moment, ça n'empêche pas d'avoir du respect pour les autres. Et là, en plus, ce n'était pas du tout un attentat de Leclerc sur Pérez, c'était même plutôt une mauvaise manœuvre du mexicain. Donc, voilà, il va falloir aussi que la FIA, mais je pense les pilotes eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes, fassent ce qu'il faut pour éduquer.
Ils le font, hein.
Ils le font. Ouais, ils le font, mais parfois. Alors là, Checo Pérez l'avait fait un petit peu en amont, mais parfois on le fait un petit peu quand même du bout des lèvres parce qu'on est un petit peu poussé. Et je pense qu'il va falloir, s'y remettre un petit peu sérieusement. Mais suspendre le Mexique, pour moi, ça serait dommage parce que 99,9% des gens, on les a vus, ils faisaient la fête. C'est beau, c'est bigarré, il y a des costumes, c'est magnifique.
Il faut qu'une menace pèse sur ce type de comportement et que ça devienne intégré dans l'esprit de chacun. Et la marge de ceux qui pourraient en venir aux mains dans d'autres circonstances, ce qui ne serait pas justifié non plus de toute façon, mais il faut qu'il y ait une menace qui pèse en disant le prochain débordement, c'est terminé. Et en Espagne, le problème a été réglé. À Spielberg, c'est vrai qu'il y a un public qui était alcoolisé, etc. Ouais. Mais voilà, on n'a plus tout ça, des goodies, des je crois que c'était une casquette, voilà, l'effigie d'Hamilton qui était brûlée. Enfin bon, c'était des comportements particuliers, mais il ne faut pas que ça fasse école. Voilà, il ne faut pas se dire à chaque fois, ce sont quelques cas isolés, et puis ça ne va pas recommencer, et puis on traite ça comme des cas isolés. Non, c'est zéro tolérance, point. Et j'aimerais que Max Verstappen ne se sente pas non plus obligé de se présenter sur un circuit
avec
deux gardes du corps.
Ça, voilà. C'est sûr.
Ça aussi, c'est pareil. Alors, on a ça de temps en temps au Brésil, dans des endroits qui sont un peu réputés, malheureusement, hein, pour une certaine violence. C'est un peu plus intégré. C'est une prudence de mise, mais il n'y a jamais eu de problème non plus par rapport à des pilotes. Mais là, bon, mais il est venu avec deux gardes du corps quand même. C'était un signal fort qu'il craignait pour lui quand même.
Voilà, exactement. Bon, on va s'arrêter là, mais bon, clairement, il faut pas aller plus loin. Il faut réfléchir, effectivement, comme tu le dis, il faut réfléchir tout de suite à ce phénomène et essayer de l'arrêter immédiatement. On va parler de sport dans Les Fous du Volant. On va parler d'un jeune homme qui donne le tournis, hein, qui a donc battu son propre record de victoire en une saison. Il en est désormais à 16 succès sur une année. Max Verstappen, qui, avec sa victoire au Grand Prix de la ville du Mexique, a également égalé le record détenu par Alain Prost avec 51 victoires. Voilà, rien qu'en quelques mots, on place le niveau auquel le Néerlandais évolue. Et en course, il a été intouchable parce qu'il n'est pas parti en pole. Il partait troisième sur la grille. Et au premier virage, il sort premier. Alors on dit oui, mais bon, au Mexique, c'est particulier parce qu'il y a tellement d'espace entre la grille de départ et le premier virage que finalement, c'est un avantage d'être en deuxième ligne. Bon, ok, on arrête la course, drapeau rouge, on refait un départ. Et comme il était en tête, il part donc de l'emplacement de la pole position. Et bien, premier virage. Il est devant, il fait ce qu'il veut en fait, il est irrésistible en ce moment, Max Verstappen au volant de sa Red Bull.
Il a été particulièrement écœurant en pneus durs,
ouais,
il faisait ce qu'il voulait là.
C'est ça. Il a résisté en pneus durs à un Lewis Hamilton qui était en pneus tendres, et puis derrière, la course a été arrêtée au drapeau rouge suite à la grosse sortie de piste de Magnussen.
Ouais. Tout à fait. Ouais.
Et il avait une quinzaine de secondes d'avance à ce moment-là. Bon, avantage réduit à néant. On redonne un deuxième départ. Et en gros, il remet l'avance qu'il veut en repartant avec des pneus durs.
Ce que je regrette quand même, c'est le cocooning encore à la radio. Quand on lui dit, fais attention à la façon dont tu abordes la bordure dans le virage numéro 3. Mais ça, on n'a pas à lui dire. Il fait sa vie, c'est comme ça. Et s'il endommage un petit peu son matériel, son fond plat, il va être moins performant. Mais là aussi, il est en tête. On a le sentiment qu'il ne peut rien lui arriver. Et quand il y a un danger qui pointe, son équipe l'appelle tout de suite en disant « Tu vas faire une erreur, tu vas devenir vulnérable. »
C'est le métier,
tu risques de ne pas
gagner. C'est le travail de son équipe.
Et j'en viens toujours à la même chose, c'est que si on supprime la radio, on le rend un petit peu plus vulnérable sur des choses comme ça. Et puis peut-être qu'il ne gagnera pas là où il devait gagner avec l'assistance de son équipe. Et tu vois bien qu'ils envoient en plus à chaque fois un représentant pour recevoir le trophée des constructeurs sur le podium. Mais moi, je trouve qu'on devrait faire comme en rallye. C'est pilote copilote, et là ça devrait être pilote ingénieur de course, parce que cette personne là le drive, lui raconte tout et lui évite des pièges.
Ah bah, malheureusement l'ambiasé, il est voilà. Déjà allé chercher hein, quelques
tout à fait, mais il va aller chercher, mais ça devrait être de fait deux personnes sur le podium.
Ah,
pour
moi
la
j'aime
première,
bien
la deuxième,
l'idée qu'on puisse
place.
Choisir parce que de temps en temps
oui,
envoyer bon. Même envoyer, excusez-moi, ça n'a rien de péjoratif, mais oui, un simple mécanicien. Bon, il n'y a pas de simple mécanicien en Formule 1 de toute façon, mais chaque membre de l'équipe est un rouage. Si un mécanicien oublie un écrou, la monoplace, ça s'arrête.
Mais quand j'entends Jean-Pierre Lambiassé l'appeler pour ça, il me dit, on rate une occasion de le rendre un petit peu vulnérable, qu'il pilote un peu à découvert. Mais non, en fait, il est toujours couvert par son équipe et qui va lui donner à chaque fois la solution.
C'est peut-être aussi ce qui explique, il y a une statistique intéressante hein, qu'on voulait montrer, combien de Grands Prix a mis Max Verstappen pour atteindre le total de Alain Prost. Alain Prost, il a mis 193 Grands Prix pour atteindre ses 51 victoires. Il en a fait quelques-uns avant finalement de conclure sa saison fin 1993. On n'est pas loin du côté de Max Verstappen, mais on a un tout petit peu d'avance. 182 Grands Prix, c'est ça, 182 pour ses 51 victoire. Hey, peut-être que justement à l'époque on prévenait pas forcément Alain Prost de quelques dangers. Il y a peut-être quelques casses de la voiture du Français.
Ah ben certainement.
Qui ont
aussi,
été
dues
au fait. Bah déjà il a quand même fait une partie de sa carrière où il y avait pas toutes ces datas, où on n'aurait même pas pu le prévenir. On savait même pas. Mais c'est peut-être aussi ce qui explique ce chiffre qui est complètement fou. Quasiment un tiers de victoires pour Max Verstappen.
Et le plus effrayant, c'est que Max Verstappen a 12 ans d'avance sur Alain Prost, puisque ce total de 51 victoires, il l'atteint à 26 ans, alors que Prost était dans sa dernière saison, 1993, à 38 ans. Donc on voit la marge. Alors évidemment, il a commencé à 16 ans, la Formule 1. Il y a maintenant 22 Grands Prix par an, donc ça va très très vite tout ça. Mais bon, c'est quand même, c'est pas le fait du hasard, c'est clair, mais ça fait quand même un petit peu bizarre. hein, ouais, dans cette hiérarchie des records là, de cette histoire des records, ça galope et il en est presque la moitié du palmarès, enfin des victoires de Lewis Hamilton. À ce tarif-là, ouais, ça peut aller très très vite.
Alors justement, tu parles de Lewis Hamilton, les deux hommes qui se sont retrouvés une nouvelle fois sur le podium.
Alors le même podium,
premier et deuxième.
Voilà pour la troisième année de suite à Mexico et pour la 36e fois. Ils sont dans le top 2 de façon indifférenciée, Verstappen devant Hamilton ou l'inverse. Ça veut quand même dire qu'on a eu là les deux meilleurs qui ont émergé de cette course, ce qui est pas mal quand même. Hamilton a essayé de mettre un petit peu la pression, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais c'est peut-être le duel de l'année prochaine qui se dessine, qu'on sent arriver, qu'on avait eu déjà à Austin. Si on accepte la disqualification. Mais là, il y a Hamilton qui pointe et on est tous impatients de tourner la page ou de revenir un petit peu à ce passé récent,
ouais,
qui était
quelque chose de plus équilibré.
Tout à fait, parce que Pérez, il fait pas le travail.
Et justement, parlons-en de Sergio Pérez, parce que pendant que Max Verstappen n'en finit pas de briller, Sergio Pérez, lui, on a le sentiment, n'en finit pas de s'enfoncer. Alors, il avait eu deux coups de chance quand même sur les deux derniers Grands Prix, parce que Lewis Hamilton soit avait abandonné, soit avait été disqualifié. Donc finalement, l'avance de Sergio Pérez au classement avait eu plutôt tendance à grandir malgré des mauvais résultats. Bon, là, il s'est littéralement satellisé. Premier virage.
Je te l'avais dit. Non mais chez lui il va exploser, trop de pression.
T'avais raison. Voilà.
Non mais.
Et premier virage, il est à l'extérieur de Charles Leclerc qui est milieu de piste et qui s'est fait prendre l'intérieur par Max Verstappen et il ferme la trajectoire. T'as le sentiment que d'un seul coup il a oublié qu'il n'était pas tout seul et il prend sa trajectoire. Ouais. Et évidemment il percute Charles Leclerc. Je suis en fait ce qui m'épate le plus. C'est même pas une. J'ai même pas le sentiment que c'est une. Un Max Verstappen jeune, il aurait essayé ça pour en se disant je vais intimider mon adversaire et il va freiner, il va m'éviter. Là, j'ai même pas le sentiment que c'est ça. J'ai l'impression qu'au bout de 5 secondes de course, Sergio Pérez avait déjà perdu sa lucidité.
Il est à l'extérieur en plus, enfin c'est encore plus compliqué.
Ça, 0% de chance de passer.
Tu sens en fait qu'il a besoin de se refaire sur un gros coup et qu'à domicile, c'était l'occasion rêvée. Et là, il s'y voit. Il se dit, mais
en fait, il a vu la vidéo de Verstappen l'année dernière. Il se dit, je fais pareil. Ça passe pas.
Exactement. Et il recherche le gros coup. Et c'est un petit peu comme un joueur au casino qui remet, qui double la mise et puis qui essaie de se refaire et puis qui sort complètement les poches vides, sans rien. Et là, c'est une pression qui devient insupportable. Deux abandons donc chez Red Bull. Ce sont des abandons de Pérez. C'est 19 points lâchés à Hamilton. C'est ce qu'a retenu Marco. Maintenant, il n'y a plus que 20 points d'écart.
On continue quand même de soutenir du côté de Christian Horner, de Helmut Marco, officiellement, tout du moins.
De toute façon, on était au Mexique. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? Je pense que là, c'était le week-end du déni pour Red Bull vis-à-vis de Pérez. On n'y touche pas. Alors Marco, c'est même pas la peine par rapport à ce qu'il avait dit.
Helmut Marco croyait qu'il était en Amérique latine.
Voilà, c'est ça. Sergio Pérez. Donc, j'imaginais pas autre chose que c'est pas de bol, incident de course, etc. Et il a dit s'il était allé au bout, il aurait fait podium. On n'en sait rien, mais oui, il aurait fait top 4 ou top 5. Mais on est loin de tout ça et on passe encore l'éponge. Mais il est en perdition.
Je suis pas sûr honnêtement qu'il y ait du déni ou qu'on passe l'éponge du côté de Christian Horner et de Helmut Marco. Je suis assez persuadé que du côté de Christian Horner, qui est plutôt bon dans ces situations-là, en fait, Christian Horner, il attend que Sergio Pérez, il trouve lui-même une échappatoire. Parce qu'il y a un petit bruit qui courait là au Mexique ce week-end, comme quoi il y aurait une ou même deux équipes qui s'intéresseraient à Sergio Pérez. Parce que, alors oui, il est dans une passe absolument catastrophique de sa carrière. Il a perdu complètement confiance. On le voit bien, hein, et c'est plus du tout le Sergio Pérez qu'on a connu à un moment. Mais n'empêche que, quelque part, il y a toujours ce potentiel. Il n'a pas oublié comment on pilote une Formule 1. Et puis surtout, ça fait 2 ans qu'il est immergé dans les process de l'équipe Red Bull, qui est l'équipe de référence. Pour une équipe plus petite en développement, ça peut être intéressant de recruter un pilote comme ça, de lui redonner à la fois de la confiance et puis de prendre son expérience. Il n'y a pas de clause de jardinage chez les pilotes. Vous engagez Sergio Pérez là à la fin de la saison, le lendemain, il peut vous dire comment ça se passe chez Red Bull. Ça, c'est précieux.
Oui. Oui, tout à fait. Bah, de toute façon,
ça s'est vu avec Bottas, par exemple.
Des pilotes en fin de carrière, voilà, qui sortent un peu démunis, déclassés d'une grande écurie, en fait, ont toujours encore une cote. Un Irvine qui sortait de chez Ferrari, ils l'ont pris chez Jaguar pour avoir ça. Enfin, de tout temps, ça a existé. Des pilotes qui font un pari un petit peu différent. Damon Hill aussi, chez Arrows, et puis après chez Jordan. Enfin, il y a des bonnes pioches de temps en temps. Je ne pense pas que ce soit une bonne pioche aujourd'hui de prendre Perez, mais ce qui est incroyable vraiment, c'est qu'ils l'ont signé pour 2 ans et ils l'ont regretté presque au premier jour, quoi. Et là, il est devenu un boulet intégral. C'est comme ça. Et puis, Marco, il a passé de la pommade quand même, il a dit jusqu'au premier tour, c'était une super performance de la part de Checo. Alors là, ça, c'est la meilleure du week-end, je pense, hein, sachant qu'il s'était fait taper quand même copieusement aux essais par Daniel Ricciardo.
Ouais,
voilà, tout simplement. Donc
là, en plus, il y a ça qui vient.
Il y a quelque chose d'humiliant là-dedans.
La cerise sur le gâteau, le piment sur le nacho, alors, pour reprendre un truc, c'est Ricciardo qui fait le week-end de son année.
Alors, le week-end de son année, grâce à sa voiture et je dirais grâce à son moteur. Souviens-toi, Gilles, le moteur Honda a une architecture particulière. Au niveau des turbos, il souffre moins de l'altitude et ça a toujours été historique dans les déplacements au Mexique. En altitude, eh bien, ce moteur fonctionne mieux que les autres. Et là, ça s'est vu vraiment, c'était flagrant chez AlphaTauri. Et même, Tsunoda était en train de tirer son épingle du jeu avant son erreur.
Avant de se Tsunoder lui-même.
Ricciardo, il s'est fait une pub énorme sur ce coup-là. De toute façon,
incroyable.
Là, il est éligible maintenant pour la Red Bull. Et comme tu dis, s'il est intéressé par une autre équipe, Red Bull va nous présenter ça comme Checo a décidé qu'il fallait tourner la page et on se sépare.
Et ça tombe bien.
Voilà,
on a
exactement.
Daniel.
Il faut surtout pas
donner le sentiment de l'avoir viré.
De le mettre dehors. Mais ce week-end, il n'y a pas que des pilotes de la galaxie Red Bull qui ont fait des bonnes opérations. Liam Lawson courait pour le titre en Super Formula au Japon. Il a terminé deuxième. Bon, alors on ne sait pas si Helmut Marko va l'obliger à refaire une saison pour être champion. On verra bien. Mais ce pilote-là est transférable immédiatement comme titulaire chez AlphaTauri si
Ricciardo
monte chez Red Bull, ce dont il est question, hein, clairement.
Ah, bon, oui, non,
mais
clairement.
On ne veut pas le dire chez Red Bull, mais c'est une option qui est à court et qui arrangerait absolument tout le monde, comme tu le dis. Si Perez pouvait dire j'ai décidé de tourner à la page, je vais voir ailleurs, tout le monde serait content.
Exactement. On va parler de Ferrari aussi, parce que ce qui a beaucoup contrasté ce week-end, c'est effectivement la maîtrise totale dégagée par Max Verstappen, qui pourtant partait troisième sur la grille. Une première ligne 100% Ferrari. On avait quand même le droit de nourrir quelques ambitions du côté de l'équipe de Fred Vasseur, Charles Leclerc en pôle, Carlos Sainz à ses côtés. Et puis à l'arrivée, la Scuderia doit se contenter de voir la monoplace du Monégasque sur le podium. Et c'est tout. Sainz termine quatrième. Et c'est une tendance de fond. Les Ferrari sont véloces en qualif, performantes. Et puis elles ont ensuite du mal à performer, voire même à exister en course. On les a quasiment pas vues, les Ferrari au Mexique. Elles n'ont fait que se faire dépasser, en fait. Résister.
Très bon relais quand même, très bon premier relais de solide de Leclerc. Et puis après, une fois qu'ils ont passé les durs, c'était fini.
Avec un aileron avant à moitié arraché par Sergio Perez. Je suis responsable de l'aileron avant.
c'est une cloison, c'est une cloison marginale. Alors après, il fallait voir s'il y avait un problème de structure de l'aileron, sa flexibilité, etc. Je me souviens d'une course de Button chez McLaren qui s'était fait arracher un peu plus que ça au niveau de l'aileron avant. Il ne lui avait pas dit en course, il avait découvert ça à l'arrivée, il était sur le podium et il a dit en fait j'ai rien senti. Donc ça se ressent pas forcément. Eux ils vont t'expliquer que ça coûte beaucoup en termes de perfo. Vasseur a tout dit, il a dit on était à 3-4 dixièmes du rythme de Max, c'est ce à quoi on s'attendait. Ça veut dire que impact à peu près zéro. Franchement, faut pas se raconter d'histoire là-dessus. Il y a des fois où c'est l'explication toute trouvée pour une contre-performance et on met un petit peu de la pommade, mais c'était pas ça. Alors pour ce pauvre Leclerc, il est toujours en lice pour un triste record parce que tu en as parlé, 11 pole positions non suivies d'une victoire. Le record est de 13 pour ce genre de série signé René Arnoux de 1979 à 82. Donc il y a encore un petit peu de marge, mais on aimerait qu'il ne s'approprie pas ce record quand même.
C'est curieux cette analogie parce que c'est deux garçons ultra sympathiques. Alors c'est pas du tout la même génération, hein. Les jeunes qui nous écoutent connaissent pas du tout René Arnoux, super pilote, notamment pilote Ferrari d'ailleurs,
oui,
au passage.
Tout à fait.
Et super pilote adorable. On l'avait reçu quelques fois dans les locaux d'Eurosport. Alors il y a eu pour Ferrari cette exception singapourienne parce que Red Bull avait mis à côté en termes de réglage, parce que le circuit avait permis à Carlos Sainz, le ministre de la Défense, de conserver sa première place. Mais là, on a vraiment le sentiment que la Ferrari SF23 est une voiture du samedi. Manque de chance, c'est le dimanche qu'on marque des points. Et là, sur ce Grand Prix, je suis désolé, il n'y a pas eu de raté stratégique. Les arrêts au stand se sont bien passés. Dans l'exécution, il n'y a rien eu à reprocher. Juste, ça n'a pas fonctionné.
Tu m'as fait penser à Alain Prost quand tu parlais de René Arnoux, parce qu'on ne les voit jamais ensemble. Ils sont les années Renault, ça avait fait des étincelles et ils ne se sont pas rabibochés depuis. Mais moi, je reviens justement à Alain Prost parce que je regardais ce qu'il avait fait chez Ferrari lors de l'année 1990. 5 victoires, 0 pole position et presque champion du monde à la fin. Donc, il se faisait une voiture du dimanche avec l'objectif de se qualifier correctement le samedi, mais il n'en faisait pas une obsession. Et je pense que chez Ferrari, au contraire, ça sert un petit peu à faire une hype, à créer de l'espoir. Quand on fait autant de pole position, c'est qu'on est vraiment axé sur la qualif et qu'on se croit un petit peu beau. C'est pas que c'est des flambeurs, mais franchement, derrière, on est tout le temps déçu. Et on ne nous dit pas que le développement de la voiture a été axé sur l'élargissement de la palette de réglages, parce qu'à l'arrivée, Charles Leclerc disait que la voiture était assez pointue en termes de fenêtres de fonctionnement. Elle est certainement la voiture la plus pointue. Alors quand tu es dans cette fenêtre-là, tu es le roi du monde. Et puis quand il faut faire fonctionner des pneus durs, des pneus médiums ou des pneus tendres, mais forcément, tu as un type de pneu qui te coûte très cher.
Alors, j'ai deux choses à répondre à ça. Je trouve que tu es un petit peu rude. D'abord, les fêtes. J'ai oublié de donner la statistique qui nous fait dire qu'on est dans le vrai. La position moyenne sur la grille, de manière un petit peu surprenante, c'est Carlos Sainz qui a sa place moyenne sur la grille, meilleure que Charles Leclerc, un deuxième. Ça, c'est des calculs que tu fais toi.
Mais ça, c'est notre grille type.
Hein. Ouais, c'est
clairement
celle
c'est
que tu fais toi-même.
Le roi de la régularité, franchement.
Voilà, deuxième sur la grille en moyenne, Carlos Sainz. Charles Leclerc est troisième. Et la position moyenne à l'arrivée, c'est là que ça nous dit, en comparant ces deux données, finalement l'évolution en course. Charles Leclerc, il part en moyenne en troisième position, il finit à la 4,85e place.
Ouais, ça veut dire que la cinquième.
Voilà, ouais. Il perd en moyenne, enfin quasiment deux places. Et Carlos Sainz, lui, part en moyenne à la deuxième place sur la grille et termine normalement en moyenne, encore une fois, à la 5,25e place. Ça veut dire, en gros, qu'il perd 3 places, plus de 3 places en moyenne en course. Ça nous dit vraiment que la Ferrari, c'est une voiture du samedi et pas une voiture du dimanche. Elle est plutôt axée qualification que course. Alors oui, tu dis, oui, ça, on fait un petit peu de la communication, de la hype du côté de chez Ferrari. Mais en fait, je me demande si ce n'est pas la voiture qui intrinsèquement a dans son ADN cette capacité à aller vite sur un tour, mais cette capacité, elle demande des qualités qui vont un peu à l'encontre de celles du dimanche, où il faut être plutôt gentil sur les pneus, il faut être bon sur les longs relais. Et on a peut-être, en fait, je me demande si ils ont vraiment le choix chez Ferrari. Ils ont un petit peu hérité cette SF23. Elle est le fruit de l'ère Mattia Binotto chez Ferrari. Et même si ça fait bientôt un an que Fred Vasseur est aux commandes de la Scuderia Ferrari, c'est pas son équipe technique qui a fabriqué cette auto. Alors qu'est-ce qu'on fait? La voiture, elle va vite le samedi. Eh ben, je pense que on essaye de la faire aller aussi vite qu'on peut le samedi, et puis le dimanche, eh ben, on s'accroche à tout ce qu'on peut, et c'est comme ça qu'on ne perd. Moi, je pense que chez Ferrari, on dit qu'on ne perd que deux ou trois places. Que deux ou
trois
places.
C'est quelque chose qui est assumé, qui est
prévu. On n'a pas trop le choix.
Tout à fait. Mais alors, ce tout qualification, ça marche sur un circuit en ville. Il faut absolument ça. C'est le facteur déterminant. Monaco, Singapour, des circuits comme ça, on sait très bien que c'est la place qui est prépondérante. Et c'est ce qu'a su faire Sainz cette année. Pole position à Singapour et victoire derrière. C'est-à-dire que là, c'était Fort Knox. On ne pouvait pas dépasser. Point. Mais sur un circuit comme au Mexique, où tu as quand même une grande ligne droite, où l'effet d'aspi joue beaucoup, il faut changer un petit peu de tactique. Et il faut essayer de se réfréner et de travailler vraiment sur cette usure, parce que moi, je trouve que c'est super payant. Mais il faut essayer de le faire. Mais chez Ferrari, on ne nous dit pas que attention à la dégradation, c'était l'objectif. Alors, ils avaient quand même bien abordé la qualif. Vasseur avait dit que sur le tour qualif, il ne fallait pas taper dans les pneus au début du tour parce qu'on le payait forcément en manque de grip à l'avant ou à l'arrière sur la fin du tour. Ouais. Et on gaspillait l'occasion. Donc ça, c'était quand même bien intégré. Ils ont même fait un bon qualitatif, vraiment en Q3, où Leclerc s'est surpris à faire la pole position et Sainz le deuxième temps. Mais on ne peut pas avoir de la chance à chaque fois le samedi et le dimanche. C'est aussi simple que ça. Et je trouve qu'il y en a d'autres qui ont mieux géré quand même. Regarde, Hamilton, il était à la rue quand même. Il nous dit, c'est un cauchemar cette voiture au premier jour. Et puis en Q2, tout commence à rentrer dans l'ordre. Ils sont un petit peu loupés en Q3 parce que Wolff a dit 3 degrés en moins, ça changeait complètement le comportement de la voiture. Soit on rentrait complètement dans la fenêtre de fonctionnement, soit on en sortait. Et nous, on en est sorti et Ferrari est rentré. Ça se jouait à ça, mais chez Ferrari, on n'anticipe pas bien ces choses-là par rapport au dimanche.
Alors, je pense qu'il y a aussi un autre problème sur la SF23. Elle me paraît un peu monomaniaque, cette voiture. Ouais. C'est-à-dire que ils arrivent à la régler pour qu'elle fonctionne sur un type de pneu, mais dès qu'il faut changer de composant, c'est terminé, c'est plus la même voiture. On l'a bien vu là sur ce Grand Prix, où en gros, sur le médium, elle allait plutôt bien, la Ferrari. Et quand il a fallu repartir avec les pneus durs, il n'y avait plus de performance. Et que ce soit Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fred Vasseur, ils ont tous dit, les pneus durs, on n'a jamais réussi à les emmener en fait dans une fenêtre de température où on pouvait. Et c'est là que c'est assez étonnant, c'est de voir que finalement cette rigidité de la Ferrari qui ne veut pas changer de pneus, elle est complètement à l'opposé de ce qui se passe pour la Red Bull, où on peut lui mettre n'importe quel pneu. Et d'ailleurs, l'année dernière et il y a deux saisons, on s'était dit, la Red Bull, elle arrive à faire des relais avec un cran de dureté en moins par rapport aux adversaires. C'est-à-dire, quand les autres étaient en médium, eux, ils étaient en soft, et ils arrivaient à faire durer les softs autant que leurs adversaires en médium. Là, ils ont fait l'inverse chez Red Bull. Le dernier relais, il le fait en dur, Max Verstappen, et il est aussi performant que Lewis Hamilton en médium. Donc, ils arrivent à tout faire avec toute la gamme de pneus, ce que n'arrive absolument pas à faire en ce moment Ferrari. Et pour en revenir au circuit en ville, il en reste un circuit en ville, là, d'ici la fin de la saison, c'est Las Vegas. Ouais. Si Ferrari gagne à Las Vegas, ils font sauter la banque.
Là, tu as quand même l'occasion d'avoir une grosse aspiration quand même dans la ligne droite. Alors, on peut aussi classer Bakou, enfin c'est deux circuits en un. Mais non, j'en viens vraiment à l'ADN de la Ferrari. Jusqu'au règlement 2021, elle était accro aux pneus tendres. Elle fonctionnait que comme ça et ils étaient souvent poussés vers des solutions médium ou tendre. Et ils avaient rectifié le tir quand même l'année dernière. Et puis, ça a de nouveau dérapé en deuxième partie de saison. Et là, on retombe dans ses travers. Une voiture assez exclusive dans ses comportements qui n'est pas polyvalente en termes d'utilisation des pneus.
Parce que je pense que s'ils vont vers les pneus durs, ils sont plus bons en qualification. Et de toute façon, ils seront moins efficaces en course. Donc, au final, il vaut mieux partir bien placé sur la grille, quitte à s'accrocher un peu vraiment à tout ce qu'on peut, et puis glisser de quelques places, plutôt que de partir loin et de ne pas exister, de ne pas avoir droit de cité.
Mais ce qui est bizarre quand même, c'est quand tu regardes un peu le comportement d'Hamilton, donc qui a battu les Ferrari, lui il a dit la voiture était pointue vraiment en qualification avec peu d'essence, et elle est devenue très confortable, maniable, agréable à piloter avec beaucoup plus d'essence. Et puis tu le vois sur toute la course où il se décale pour éviter de la surchauffe, parce que c'est aussi l'expérience. Ce qui se paye très très fort et très très cher. Et chez Ferrari, j'ai moins vu ça. Alors, est-ce qu'on avait peur d'une dégradation subite? Enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont...
Je suis absolument certain de ça. Et en fait, pour moi, ils ont fait toute la course en résistant.
Ils ont bien tenu, mais ils en manquaient certainement 3-4 dixièmes.
Et je pense qu'il va falloir tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison pour voir éventuellement une évolution sensible l'année prochaine de ce qui va se passer. Parce que là, il y a quand même maintenant un travail qui est mis en route avec des gens qui sont maintenant choisis par Fred Vasseur. Le travail de recrutement ne fait que commencer, mais quand même. Et que l'année prochaine, sans doute, je pense que c'est un des gros axes de travail de faire une voiture qui s'adapte beaucoup mieux aux différents types de pneus. Si on veut pouvoir jouer devant, il faut qu'elle soit plus performante et plus versatile en fait au niveau de ses gommes.
Et j'ajoute que c'est peut-être juste une coïncidence. Un technicien comme David Sanchez, le designer, il est passé de chez Ferrari à McLaren. Et la McLaren a formidablement utilisé les trois types de gommes
oui, qu'elle
avait à sa disposition.
Lando Norris a été le seul à utiliser
Norris
les trois types de pneus.
Voilà, des temps où il pouvait démarrer avec. Il avait trois sets de pneus neufs. Mais la voiture s'est bien comportée avec les trois sets de pneus. Ça, c'est aussi un vrai enseignement.
Exactement. Donc, il y aura des choses à voir, là, notamment au Brésil. Mais ce n'est pas forcément un Grand Prix qui va convenir très, très bien à la Ferrari. Alors, et tout ce beau monde, mon cher Stéphane va maintenant refaire les valises vite pour prendre la direction du Brésil. Dernière étape de ce triple header, ce triple rendez-vous, trois week-ends consécutifs, direction Interlagos pour ce Grand Prix du Brésil qui est donc l'antépénultième épreuve. Il restera ensuite oui. Las Vegas et Abu Dhabi. Le dernier week-end de sprint de la saison. Je vous donne rapidement les horaires. C'est vendredi, première séance d'essai libre à 15h30. Heure française, je vous donne l'heure française quand même. Et dès vendredi soir, donc évidemment, puisque c'est un week-end sprint, la qualif pour le Grand Prix. Donc vendredi soir, la qualif à 19h. Samedi, journée sprint avec le shoot-out à 15h. Donc la qualification de la course sprint et la course sprint elle-même à 19h30 et puis enfin le Grand Prix le dimanche à 18h. Alors ça commence à faire bouger un petit peu ces histoires de course sprint parce qu'on arrive en fin de saison 2023 où on avait essayé d'en mettre quand même le double par rapport à 2022.
Il est question de 10 dates pour l'an prochain.
Et on voit bien
10 week-ends à course sprint.
Et on voit bien que la mayonnaise prend pas trop.
Bah Austin, ça a été décevant. C'était vraiment bof comme course. Est-ce que c'est un ajout supplémentaire? Je pense pas réellement. Ça fait un peu de casse. Ça donne quelques indications pour la course du lendemain. Mais globalement, on a à peu près les mêmes résultats en format réduit. Ça renforce même, ça rend le meilleur encore meilleur. Ça lui permet de se détacher encore plus au classement. On a fait le top 6 des pilotes qui ont le plus marqué de points.
Donc une sorte de classement indépendant des courses sprint.
C'est Verstappen qui s'en sort le mieux. 5 courses sprint, 3 victoires, 37 points. Et puis derrière, c'est Sainz quand même. C'est-à-dire que là, c'est pareil. Il est régulier. Il n'est pas tout le temps devant.
C'est la voiture du samedi.
Il est présent. Voilà.
C'est la Ferrari du samedi. Voilà, deuxième de ce championnat sprint.
Perez aussi qui arrive à tirer son épingle du jeu, 19 points, un succès, je ne parlerai pas pas exactement de victoire, ce n'est pas le terme. Leclerc 17 points, donc Ferrari ça tourne bien aussi. Et puis Hamilton 15, ce qui n'est pas terrible, et c'est le même total que Piastri. Donc moi je ne sais pas encore ce qu'a apporté ce format sprint, mais le pire c'est qu'on se pose des questions pour essayer de jouer à chamboule tout. Et je ne sais pas si on va avoir la politique du pire, la solution du pire.
Voilà, comme ça ne donne pas totalement satisfaction, au lieu de faire machine arrière, on va aller encore plus loin. Enfin, on risque d'aller encore plus loin. Comme ça, au moins, vous connaissez un peu notre état d'esprit. On nous parle de plus en plus de grille inversée. Alors, grille inversée le samedi par rapport au classement. En gros, les derniers du classement partent derrière pour essayer de créer du dépassement du spectacle.
Alors, grille inversée totalement, je ne sais pas si c'est réaliste. Alors, top 8, top 10 inversé, peut-être
comme
plus
ça
acceptable,
fait,
ouais. En fait. Mais moi, ce que je trouve un petit peu dangereux, c'est que Rose Brown nous avait donné au départ le directeur sportif de la Formule 1 qui a quitté son poste, il nous dit que ça n'aura pas d'impact sur le championnat du monde.
Ah, on a vu
que
oui.
Il y a juste eu un titre mondial décerné cette année au Qatar à l'issue d'une course sprint. Et là, on donnerait un petit peu plus de points, une prime en fait aux pilotes moins bien classés. Enfin, on ne va pas dans le sens d'une méritocratie. Et j'espère que ça ne va pas ressortir. Je ne sais pas qui promeut cette idée, mais tu as remarqué quand même que quand Ferrari est un peu dans la difficulté, ils mettent en avant la solution de la course au sprint. Et puis dès qu'ils commencent à gagner, c'est un petit peu terminé. C'est la solution des underdogs, des challengers, ceux qui se battent pour des 6e, 7e, 8e places. Ils voudraient bien que ce soit inversé. Forcément, ça les ferait partir devant.
Alors,
mais à part ça, quel intérêt?
Alors on s'est demandé justement qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme alternative à la grille inversée qu'on nous sert un petit peu peu comme une tarte à la crème. J'avais parlé la semaine dernière, on avait enregistré avec Julien Perra, j'avais dit sur le ton de la boutade que finalement il faudrait peut-être désigner les pilotes et les voitures par tirage au sort. Évidemment, c'est pas du tout ce que je souhaite, hein. Mais bon, tant qu'à aller vers des trucs assez délirants, pourquoi pas, ça serait marrant de voir un Max Verstappen au volant d'une
Aston Martin.
Ouais, voilà.
Là, s'il peut faire mieux que Fernando Alonso.
On aurait peut-être des surprises, oui. T'empêche mine de rien. Non, mais ça serait valable aussi dans le sens inverse. Imaginez Logan Sargeant au volant de la Red Bull, si ça se trouve, il ferait des merveilles.
Oui, ouais, mais alors là, tu fais des contrats à la journée.
Ah oui, oui, c'est ça.
De sponsoring, d'engagement, de bon, tout.
C'est pour ça que c'est pas possible.
Là, c'est voilà. Pour ça que c'est ceux pas qui possible. En parlent de temps en temps en disant ah, mais ça serait bien s'ils avaient tous la même voiture.
Oui. C'est pas de la Formule 1, c'est de la Formule 2.
Tout à fait. Donc, vous regardez juste l'étage en dessous et c'est toujours très pertinent parce que il y a des pilotes qui cartonnent en Formule 2, on les retrouve comme Piastri.
Oui.
Le modèle est pertinent pour l'apprentissage, mais pas pour l'élite.
Après, les voitures sont les mêmes, mais les équipes d'exploitation ne se valent pas toutes. Quand vous êtes chez Hart Grand Prix, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans une petite équipe, voilà, ou Préma. Voilà, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes dans une équipe moins compétente. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre solution? Qu'est-ce que tu pourrais proposer, toi?
Non, moi, je propose rien du tout. Je propose de les supprimer. Si, ces sprints,
c'est noté là.
Mais je sais bien.
Voilà, la pop. Bon, en gros, un
balance
système de lest.
Performance. Voilà.
C'est système
plus on
gagne,
plus on est lesté. Alors, ça a un effet un peu en wake. Cette année, vous avez vu gagner Ferrari au Mans et puis ramer un petit peu plus sur les courses suivantes parce qu'on les punit un petit peu pour remettre sur le devant de la scène les autres. Mais alors ça, c'est un système qui est intégré, qui fait partie de la culture, de l'endurance. Donc là, la question ne se pose pas. Mais
ça se pose quand même. Ça énerve quand même. Je peux te dire que chez Toyota, on était très, très énervés.
Bien sûr, mais en Formule 1, on n'a jamais eu cette solution-là.
Non, donc, je pense qu'il faut pas y aller.
On ne peut pas y venir. Et puis, ça voudrait dire qu'on pourrait mettre 10 kg, 20 kg de lest sur une voiture, ce qui la ralentirait de 4, 5, 6 dixièmes facilement. La Red Bull, bon, il faudrait mettre quand même un petit peu plus. Mais ingénieurs vous diraient que quand on règle une voiture à un certain poids, mettre un lest, ça impacte tout de suite les réglages, l'usure des pneus, enfin le rendement global de la voiture. Et avoir une configuration pour la qualif le samedi pour le sprint et retrouver une autre configuration pour le dimanche, ça serait juste impossible à appliquer. Donc on oublie ça quand même. Mais je ne sais pas ce que toi tu peux imaginer.
Eh bien, éventuellement un deuxième championnat parallèle, un classement à part. Justement, toi, tu avais fait le classement là, des courses sprint. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un... Justement, pour pas que ça impacte au niveau du championnat des Grands Prix, on ferait un classement à part sur les courses du samedi. Voilà, ça peut éventuellement laisser...
Ça aurait le mérite de ne pas impacter le résultat global du championnat du monde.
Parce de proposer une course le samedi au public, puisque de toute façon, c'est ce qui omnibule la Formule 1 aujourd'hui.
Voilà.
C'est vraiment de faire du spectacle. Il faut qu'il y ait une sanction quelque part chaque jour. On pourrait même avoir une course le vendredi tellement on veut qu'il se passe des choses tous les jours. Mais un Grand Prix de Formule 1, ça se prépare.
Mais Sao Paulo va peut-être nous réconcilier avec cette formule de course sprint. On se souvient la chevauchée fantastique de Lewis Hamilton il y a 2 ans quand même, qui était assez extraordinaire. Il était parti dernier, il avait fait deux remontées pour gagner.
Bien sûr.
C'était quand même assez fabuleux.
Mais Sao Paulo, c'est particulier. Le circuit, il est exceptionnel. Il y a comme ça quelques circuits où vous pouvez faire n'importe quoi. C'est des circuits qui produisent du spectacle beaucoup plus que sur certains autres. Donc, c'est en fait la problématique là, c'est pas pour ce sprint ou pas.
Mais là, c'est bien choisi, c'est bien vu.
Voilà.
En termes de.
Tant mieux de le faire là-bas.
De choix, exactement. C'est pas pour rien qu'on y retourne. On a essayé aussi à Austin. De façon un petit peu particulière, ça a été gâché par les voitures de sécurité et les drapeaux jaunes. Mais Sao Paulo, je pense que ça peut donner une bonne course. Et puis, ça peut nous mettre en valeur vraiment Mercedes, parce que Toto Wolff a dit dimanche, on sera beaucoup mieux à Sao Paulo. Et ce circuit convient bien à la voiture, ou l'inverse, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Mais en tous les cas, ça devrait matcher. Et Lewis Hamilton a coché ça quand même dans son agenda en disant, on sent que c'est sa meilleure chance de gagner cette année.
Eh ben, on va voir ça et ça serait pas inintéressant de voir Lewis Hamilton s'imposer évidemment dimanche du côté de Interlagos. Je rappelle le Grand Prix dimanche à 18h et évidemment nous on en reparle la semaine prochaine dans Les Fous du Volant, ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Stéphane, on a encore été très bavard, j'ai l'impression, cette semaine.
Beaucoup plus que la semaine dernière, mais c'est normal.
Mais c'est normal, tu n'étais pas là.
J'étais en train de préparer ma chorégraphie au Texas.
Eh oui.
J'ai bien compris.
Exactement. Bah, d'ici là, bah, tu vas nous la faire un jour, ta démonstration de country quand même. Bon, allez, d'ici là. On en reparle la semaine prochaine.
Oui.
Et d'ici là,
on coupe le contact.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.